Vous êtes sur Divergence FM et aujourd'hui en studio, on reçoit Christelle Tibéri et Sandrine Pratt pour parler de Lucie et de la zone du Grand Rift. Alors, on parlait tout à l'heure donc de l'importance du territoire du Grand Rift pour les recherches, mais c'est donc également des territoires qui sont assez compliqués d'accès, autant sur le plan logistique que sur le plan géopolitique. Alors, comment vous préparez vos expéditions pour aller là-bas ?
Alors, les expéditions, le premier point, c'est qu'elles sont interdisciplinaires. Donc, en fait, écoute, il y a souvent un géologue, un paléontologue, un archéologue, selon les, en fait, ça dépend un peu du cadre chronologique. Et c'est toujours aussi en relation avec les populations locales et avec les autorités locales du pays. Donc, c'est souvent des équipes internationales, mais qui, naturellement, est fait conjointement avec les autorités des différents pays. Et donc pour ce faire, c'est vrai que ça nécessite une logistique importante, notamment en termes d'alimentation et d'eau. Donc en fait, généralement, on est en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on va prendre un grand camion avec tous les vivres pour la durée de la mission. Et après, sur place, eh ben, il faut, comme pour les hominines, hein, c'était l'importance de l'eau. Donc, on va soit mettre le camp à proximité de l'eau, mais donc on va être un peu loin du site éventuellement de fouille. Et donc, avec des 4x4, on va aller sur le site de fouille, ou autrement, on va faire l'inverse. Et en termes de recherche, en fin de compte, le premier point, c'est la prospection. Et donc, si on reprend le cas de Lucie, en fin de compte, elle a été découverte en 1974, mais les premières prospections de géologie, c'est dans les années, fin des années 60. 69 par Maurice Taïeb, et c'est lui qui a découvert tous ces sites. En fin de compte, c'est grâce à lui hein, qu'il y a tous ces sites dans la Afar et le site de Lucie. Et donc après, il a monté donc cette International Afar Research Expedition. Donc il y avait Yves Coppens, Donald Johansson et Raymond Bonnefille. Et leur méthode, en fin de compte, c'est exactement la même méthode qu'on pratique à l'heure actuelle. Voilà.
Et comment on finance ces expéditions ?
Ah, question très intéressante. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que donc souvent il y a un financement. En France, on a la chance d'avoir le ministère des Affaires étrangères, donc il finance une partie, mais vraiment une infime partie des projets. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout augmente, donc en fin de compte, ça devient de plus en plus compliqué de faire des missions longues. Sur le terrain, on fait appel bien souvent à des mécénats et puis on va postuler à des programmes, notamment les programmes de l'Agence nationale pour la recherche par exemple, pour pouvoir obtenir de l'argent. Mais c'est vrai qu'au cours du temps, en fin de compte, avec plus d'argent, on fait moins de temps sur le terrain. Mmh. Et il faut quand même partir au moins 4 semaines parce que vu la logistique nécessaire pour aller sur le terrain et puis les découvertes, on les fait pas forcément tout de suite. Et voilà, il faut trouver le juste équilibre financièrement. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver des financements.
Et les dossiers financiers, vous les faites par discipline ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'interdisciplinarité de ces recherches. Vous les faites par discipline ou c'est par projet conjoint plutôt ?
Non, c'est par projet. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle une mission, enfin, ou pour l'IRE, c'était l'expédition. Et oui, non, c'est par projet. C'est vraiment une recherche d'argent interdisciplinaire pour pouvoir monter ce projet.
Dans le Rift, c'est une zone environnementale très très riche avec beaucoup d'animaux, de grands lacs, d'eau douce. Comment est-ce que le Grand Rift peut-il nous apprendre à décrypter l'évolution de notre environnement vu qu'il a vu des vagues changeantes d'environnement, enfin qu'il a subi tout au long de son existence ?
En effet, on voit au cours du temps de grands changements environnementaux globaux. Donc si on prend le cas de Lucie, on était plutôt dans des environnements de zones marécageuses, des étendues herbeuses et parfois forestières. En fin de compte, ça a varié entre 3,8 millions d'années et 3 millions d'années, ça a beaucoup varié. Et ensuite, on sait qu'à partir de 2,6-2,8 millions d'années, ça on le sait d'après la faune, on a une aridification de ces régions, avec une espèce plus, au départ, savane arborée, et après plus savane ouverte. Donc en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir le côté adaptation, en fin de compte, des hominines aux différences, aux variations environnementales. Et donc, en fin de compte, il y avait une notion de résilience et une capacité d'adaptation, même très ancienne, aux changements, et surtout au niveau local, avec une diversité d'environnements.
Mais aujourd'hui, les changements climatiques, est-ce que ça, y a des risques qui compromettent ce territoire et du coup les projets qui en découlent ?
Alors, il y a un gros risque pour les populations locales, hein. Clairement, si je prends le cas du Kenya, le Turkana, et en effet, il y a un risque pour ces populations qui sont donc dans des... Là, le Turkana, c'est un espace... Enfin, c'est le plus grand, le quatrième lac d'Afrique, mais qui est dans une zone très, très aride. Donc, dès qu'il y a des changements climatiques ou d'apport d'eau, ou notamment... c'est drainé par la rivière Omo, dès qu'il y a des barrages sur la rivière Omo, donc dès qu'il y a moins d'apport, en fin de compte, leur équilibre, notamment de pêche, etc., est totalement déstabilisé. Et donc, c'est des régions avec des tensions intergroupes qui peuvent devenir importantes au fait des changements climatiques, qui sont beaucoup plus impactés que nous aux grandes variations climatiques.
Puisque la plupart des personnes qui habitent dans ce sont ce sont des gens qui se déplacent. Nomades, pardon. C'est ça que je voulais dire.
En fin de compte, c'est...
Puisque, je veux dire, il y a plusieurs groupes, tels les Maasai, qui ne relèvent pas de l'entité étatique.
Alors
c'est effectivement super compliqué parce que, et c'est là qu'on touche beaucoup l'interdisciplinarité, c'est que il y a effectivement des groupes non étatiques. Les Maasai n'en font pas vraiment partie.
Autant pour moi.
Parce que, il me semble, je ne suis pas anthropologue, mais ils ont une nationalité soit kényane, soit tanzanienne.
Oui, bien sûr.
Il y a d'autres groupes, comme les Mursi, qui sont non étatiques, qui ne se revendiquent pas d'un pays. Ils ont leur propre mode de fonctionnement. Il n'y en a pas énormément, il y en a peut-être de moins en moins, même. Ça ferait demander à des sociologues, mais. Ce qui est compliqué, c'est que ces pays, déjà, en fait, il y a beaucoup de pays, à part l'Éthiopie, qui proviennent d'une colonisation. Donc, les frontières ne sont pas forcément des frontières. Naturel ou historique avant la colonisation. Et en plus, on a des interactions en fait et des rétroactions entre typiquement le climat, l'eau et les populations. Les populations vont agir aussi sur l'eau, et l'eau, l'érosion et le climat va modifier aussi. Ça va modifier la répartition de l'eau et la quantité d'eau. Donc c'est vraiment ces interactions-là qui sont importantes à voir.
Merci à toutes les deux, Sandrine Pratt et Christelle Tibéry, d'avoir répondu présente aujourd'hui. Chers auditeurs, chères auditrices, si le sujet vous intéresse, le livre Le Grand Rift Africain à la confluence du temps est disponible aux éditions Le Cherche Midi, et vous pourrez retrouver nos deux invités ce soir à l'Agora des Savoirs à 19h au Centre Rabelais, une conférence que, je le rappelle, vous pouvez retrouver en direct sur l'antenne de Divergence. Merci à tous.